Depuis mars 2020, l'apprentissage à l'école est impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19. Entre la fermeture des établissements scolaires, les cours en distanciel ou le stress de ramener le virus à la maison, il est difficile d'être un élève ces temps-ci, que ce soit écolier, collégien ou encore lycéen. Armés de nos micros, nous les radiolabeurs de Radio PFM 999 sommes allés interviewer jeunes, profs et même proviseurs pour avoir leur ressenti sur la relation entre les jeunes et le confinement.
Nous allons commencer avec une interview effectuée avant le confinement au lycée Gambetta à Arras. Donc nous avons interviewé des élèves en seconde et de première, ainsi qu'un professeur. Bonne écoute!
Quel est votre état d'esprit à l'annonce de ce nouveau confinement à l'approche du bac?
Bonjour, donc je suis lycéenne au lycée Gambetta Carnot en classe de première. C'est une bonne chose pour la situation sanitaire qui ne s'arrange pas, mais par contre pour nous lycéens en demi-jauge, ça va être très compliqué par la suite. Je pense qu'il y a des difficultés qui vont ressortir.
Bonjour, je m'appelle Malvi Delaine et je suis en première à Gambetta. Ce reconfinement près du bac, ça nous laisse un peu dans le flou pour le futur du bac français.
Bonjour, je suis une élève du lycée Gambetta d'Arras. Et je suis en première générale et bien sûr j'ai 17 ans. Alors forcément un peu inquiète parce que le bac c'est quand même assez important pour nos études futures et on a peur bien sûr de ne pas être assez préparé et d'être désavantagé sur certains points comparés aux autres années parce que bien sûr on a aussi la réforme qui joue un rôle de base parce qu'on est les premiers, on fait partie des premiers à avoir la réforme du bac.
Bonjour, je m'appelle Charlie. Et je suis en première 4. Je trouve ça un peu dur et ça va être compliqué de suivre et d'être vraiment préparé pour le bac.
Est-ce que vos profs vous préparent en ce moment aux épreuves du bac?
Oui, on a déjà eu un bac blanc écrit. Et moi, je sais que ma prof, elle me fait passer des fois des oraux et par exemple des DS aussi pendant 4 heures. Donc moi, je trouve que les profs, ils me préparent très bien aux épreuves.
Oui, nous avons passé des épreuves de bac blanc et nos professeurs nous font passer des oraux.
Oui, bien sûr, ils essayent de nous préparer comme ils peuvent, même si avec le distanciel et une sorte de perte de courage pour certains élèves, car tout le monde ne travaille pas au même rythme, ou tout le monde ne travaille pas aussi bien que ce que les profs attendraient. Donc forcément, on est préparé, mais on n'est pas sûr quand même d'être assez préparé. On est un peu inquiet.
Oui. Notre prof de français pour le bac de français. Après, les autres, pas trop. Enfin, ils nous en parlent, quoi, mais pas trop, trop.
Il y a certains profs qui nous préparent à l'oral. Et surtout en français, on apprend beaucoup le bac pour l'oral, l'écrit, que ce soit.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura des inégalités entre les lycéens par rapport au reconfinement de certaines régions?
Alors oui, forcément, puisque il y a certains lycéens qui sont un peu négligés et qui suivent moins de cours, et forcément la moitié des cours, donc il y a des difficultés qui vont ressortir ensuite.
Oui, il y aura certaines différences, mais je pense qu'elles seront minimes, puisque pour l'instant, au moment où je vous parle, il n'y a pas eu beaucoup de différences entre les... C'est le tout début de... du reconfinement de certaines régions, donc pour l'instant la différence est minime, mais il reste à voir dans le futur.
Oui, bien sûr, il y aura des différences, parce que dans un certain sens, avec le contrôle continu, ou encore les modifications qu'il y a eu au cours de cette année, certaines régions, différents professeurs ont différents aménagements par rapport aux difficultés. Certains ont des problèmes avec leur famille, etc. Donc ça dépend des régions, des personnes, des professeurs. Il y aura forcément des désavantages.
Il y aura des classes qui auront moins de connaissances, je pense, par rapport à des autres.
Oui, je pense qu'il y aura beaucoup d'inégalités. Parce que si certaines régions sont reconfinées, il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir plus de facilité à passer le bac et d'autres vont avoir moins de facilité. Donc, voilà.
Je pense qu'effectivement, les lycéens donc, auront moins d'heures de cours puisque les classes sont en groupe. Cependant, le fait d'être en demi-groupe permet d'accompagner beaucoup plus les élèves et permet un travail intéressant, il me semble.
À cause du Covid, il y a des épreuves écrites qui sont passées en contrôle continu. Est-ce que tu penses que cela va favoriser ou non les inégalités entre les lycéens?
Alors oui, forcément, certaines personnes ont des difficultés, mais après, à partir du moment où on s'en sort bien et qu'on travaille bien, il ne devrait pas y avoir de problème.
Bien sûr, il va y avoir des inégalités parce que certaines personnes sont plus ou moins amènes d'avoir de bonnes notes dans l'année. Donc vu que c'est du distanciel, il y a aussi un travail à la maison qui est fourni et qui va déstabiliser les élèves parce que certains n'ont juste pas d'ordinateur, ont des parents avec des situations familiales compliquées. Et forcément, certains élèves vont avoir des facilités à travailler, vont avoir des bonnes notes, donc ils seront avantagés parce que c'est en contrôle continu et ça ne se jouera pas sur une seule épreuve. Et pour d'autres, ils seront désavantagés parce qu'ils auront eu plus de temps pour se préparer et ça se sera joué à une seule épreuve. En fait, ça dépend vraiment des élèves.
Oui, je pense, parce qu'il y a des lycéens qui ont des mauvaises moyennes, mais qui ont du potentiel et que bah, du coup, bah, ça ne enfin, sera pas la même note.
Je pense que ça va favoriser les inégalités parce que c'est bien que ce ne soit pas des épreuves communes parce que s'il y a certaines régions qui sont confinées, ça fait qu'ils ne vont pas les passer. Il y en a d'autres qui vont les passer. Donc,
Là, j'avoue, je ne sais pas trop, mais je pense que le contrôle continu est favorable pour les élèves.
De quelle manière voyez-vous l'annulation des E3C ?
Pour cette année, c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. Après, on fait des entraînements, donc voilà. Mais pour l'année prochaine, s'ils annulent, ça va être très compliqué parce qu'on ne pourra pas du coup s'entraîner pour les vraies épreuves. Donc je pense que l'année prochaine, ça ne serait pas une bonne chose. Mais cette année, je ne le fais pas forcément très mal. Donc voilà, il y a déjà les épreuves de français qui ne sont pas annulées. Donc voilà. Mais si l'année prochaine, ils les annulent, ça risque d'être compliqué.
Ça nous pénalise puisque forcément c'était un bon entraînement pour les épreuves du bac. Donc après ça passe en contrôle continu, donc ça reste sur notre travail. Donc pareil, si on travaille bien, ça va aller.
Bah c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un entraînement en fait. Donc, du coup on n'a pas.
C'est une bonne nouvelle sur le moment pour cette année, mais je pense pas que ce soit forcément bénéfique pour nous l'année prochaine.
Alors, pour le moment, j'en pense trop rien parce que je suis un peu jeune, donc forcément, je ne sais pas trop ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je suis un peu inquiète, mais moi, je prendrai les choses comme elles viendront.
Positif, parce que je pense que si y aurait eu les autres assez normales, j'aurais galéré parce que du coup, comme il n'y a qu'une semaine sur deux, ça, c'est pas cool.
Je la vois d'un bon œil et puis je pense que c'est plutôt bénéfique.
En ce qui concerne les E3C, je pense que les épreuves communes sont importantes pour qu'on compare les niveaux entre classes et pour que les élèves se préparent à l'échéance finale. Mais leur annulation n'empêche pas de travailler et finalement, ce qui compte, c'est qu'on travaille. Les notes, je trouve que finalement, c'est secondaire.
Comment envisagez-vous votre avenir, étant donné qu'il est impossible de trouver des stages et que les métiers sont à l'arrêt ?
On avait déjà fait des stages en troisième. J'ai déjà fait un stage en troisième et en quatrième. Donc, pour moi, c'est pas très compliqué parce que je sais déjà ce que je vais faire. Mais après, je pense pour certaines personnes, ça peut être très très compliqué parce que je pense que peut-être je suis pas toute seule à savoir faire, ce que je veux faire. Mais il y a d'autres personnes que je connaisse, ils sont perdus parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc forcément. Oui, de ne pas faire de stage et justement aussi pas rencontrer aussi les personnes aux universités. C'est aussi compliqué, donc je pense que oui.
Heureusement, nous avions réalisé des stages les années précédentes. Mais après, pour certaines personnes qui ne savent pas encore dans quelle voie partir, ça peut être très embêtant pour eux qui ne peuvent pas faire des expériences dans les univers du travail.
Ici, on a quand même la chance d'avoir des conseils d'orientation pour répondre à nos questions pour notre avenir. Mais c'est vrai qu'il manque de stages, de métiers pour nous aider à nous faire notre propre opinion pour notre avenir.
Alors personnellement, je trouve que c'est très compliqué en ce moment et même la recherche d'emploi, elle est vraiment super compliquée. Donc je me projette pas trop dans mon avenir.
Est-ce que vous pensez que le Covid aura eu un impact sur votre éducation ?
Oui, beaucoup. Parce que déjà, comme je l'ai dit, on a loupé la moitié des cours. Puis même, mentalement, c'est hyper compliqué pour se motiver pour l'avenir. On se dit, ça se trouve, je vais pas avoir mon bac parce que j'ai vu la moitié des cours. Puis même des fois, on n'a pas envie de travailler parce que forcément, on est chez nous. Donc on n'a pas envie de travailler, on n'est pas motivé. Donc ouais, je pense que oui, ça aura un gros impact, je pense, au niveau éducation.
Oui, forcément, nous avons suivi que la moitié des cours et donc ça nous pénalise fortement. Et ça favorise surtout le décrochage de certaines personnes.
Oui, parce que ça dure quand même déjà depuis plus d'un an, et demi. Et donc ça aura un impact à la fois sur notre vie, en prenant toute la longueur de notre adolescence, ça aura un impact plus ou moins positif sur les gens. Pour ma part, ça aura un effet un peu négatif puisque la préparation du bac en lui-même aura été plus compliquée et l'intensité des préparations n'aura pas été la même.
Je pense que le Covid aura un impact sur mon éducation parce que forcément ça c'est anxiogène, ça soulève beaucoup de questions. Donc par exemple, est-ce qu'on veut vraiment avoir des enfants plus tard avec une évolution du monde pareil, ou aussi on a relevé beaucoup de difficultés à gérer cette situation, donc forcément beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de réflexions, et ça change les mentalités.
Je pense qu'il y a eu un impact, que ce soit cette année ou l'année dernière avec le confinement et là aujourd'hui qui a peut-être un reconfinement, et je pense que ça a eu quand même un très gros impact sur notre scolarité et la manière dont on est éduqué.
Ceci est très enrichissant, j'espère que vous êtes bien intéressés au sujet. Alors maintenant, interviewons Enzo qui a pas mal de choses à nous raconter sur son décrochage scolaire.
Je m'appelle Enzo Simeone, je suis en classe de première générale au lycée Gambetta Carnot sur Arras.
Depuis quand es-tu en décrochage scolaire ?
Je suis en décrochage scolaire depuis, je dirais, le début du troisième trimestre, avec une jolie petite baisse de 6 points, donc passant de 12 à 6.
Et tes profs, ils ont essayé de t'aider ?
La plupart de mes professeurs ont tenté de m'aider en me donnant des devoirs supplémentaires assez faciles pour pouvoir rattraper ma note. Mais déjà, n'étant pas un élève assez assidu dans tout ce qui est les devoirs maison, ayant énormément de mal à trouver une motivation là-dessus, j'ai énormément de mal à les réaliser et à pouvoir les rendre en temps et à l'heure.
Est-ce que le Covid a eu un impact dans ta moyenne ?
Je dirais que la crise du Covid a eu un impact dès les minutes secondes, qui a... comme tout le monde, je pense.
Et est-ce que tu as eu des visios, quand même ?
Durant le premier gros confinement, on a eu énormément de visios. Et récemment, durant le petit confinement qu'on a eu durant avril, avant et après les vacances, très peu de visios, dû au fait que les professeurs aient énormément de travail, que ce soit en présentiel ou en distanciel, qui rend la prise de notes et les devoirs assez compliqués.
Est-ce que tu veux essayer de rattraper ta moyenne ou tu veux juste plus ?
Je pense que pour mon année de première, tout ce qui va être bac français et tout, je dirais pas que j'ai abandonné, mais je pense pas pouvoir rattraper ces notes-là. Je vais plus essayer de me concentrer sur tout ce qui va être les spécialités de terminale pour essayer d'avoir le bac grâce à ces spécialités-là.
Et ta mère, elle a pas essayé de te soutenir pour que tu continues à bosser ?
Ayant quelques petits problèmes familiaux, j'ai préféré ne pas mettre au courant ma mère et juste... m'entraîner et discuter avec mes professeurs. Là-dessus, mes parents ne sont pas réellement au courant, surtout pour le troisième trimestre et ma baisse de la moyenne.
Est-ce qu'il y a des élèves de ta classe qui ont essayé de t'aider ou pas du tout ?
Je dirais que les délégués ont tenté de faire quelque chose pour la majorité de la classe, mais vu que ce sont que des élèves et qu'eux-mêmes ont énormément de difficultés, il n'y a pas vraiment d'aide à ce niveau-là.
Et est-ce que tu penses que tu vas essayer de te remotiver pour le bac de français ?
Pour le bac de français, je sais pas du tout si je pourrais le réussir, donc hormis tenter de faire quelque chose pour les oraux, mais l'écrit, je pense pas pouvoir faire énormément de choses.
C'est le moment d'une petite interlude musicale, on s'écoute School de Supertramp. Thank you.
see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along.
C'était la Music School de Supertramp. Nous allons maintenant écouter le proviseur de Gambetta qui va nous expliquer sa vision du Covid au sein du lycée et de sa gestion.
Je suis Monsieur Viedemont, le proviseur de la cité scolaire Gambetta Carnot à Arras.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui ont souhaité changer de groupe avant qu'on soit confinés ?
Alors, on a eu effectivement certaines demandes d'élèves qui ont souhaité passer d'un groupe à l'autre pour des raisons diverses, hein, que ce soit du covoiturage ou pour pouvoir travailler avec un copain, etc. Donc, mais par contre, vous donner le chiffre exact, je ne sais pas. Mais on en a eu, c'est un fait.
Pourquoi avez-vous pensé que les euros de français devaient être repoussés ?
Alors, c'est pas uniquement moi qui ai pensé qu'on devait repousser les euros de français. J'ai vu Madame Tonnel, qui est prof de lettres dans l'établissement, qui coordonne l'équipe de lettres, hein, et qui a pensé que si on repoussait les euros de français à la semaine du 31 mai, enfin début juin, les élèves auraient ainsi plus de facilité à avoir intégré l'étude des textes et que ce serait moins difficile pour eux. Alors ce sont des euros blancs, hein, faut pas confondre, entre les euros d'entraînement et les euros officiels. Les euros officiels, ils auront lieu à partir du 21 juin comme c'était prévu. Là, ce sont des épreuves d'entraînement pour les élèves de première générale. C'était pour que les enseignants aient le temps, puisque vous travaillez en distanciel pour une partie de la classe et en présentiel pour l'autre, de travailler le même nombre de textes avec tous les élèves, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité, d'accord ? Et que les élèves aient le temps de travailler les textes, puisque bon, les choses ont un petit peu changé par rapport au bac précédent, et qu'il fallait qu'il y ait à la fois de la matière, mais aussi de la méthode et de l'accompagnement.
Comment êtes-vous parvenu à l'idée que les lycéens devaient avoir cours une semaine sur deux plutôt qu'un jour sur deux, comme dans d'autres lycées ?
En fait, si vous voulez, quand on a réfléchi à l'alternance, hein, l'objectif était de garantir, hein, des conditions de sécurité optimum. C'est-à-dire qu'il fallait que dans les salles de classe, hein, la distanciation sociale soit respectée, c'est-à-dire que vous ne soyez pas les uns sur les autres, et surtout qu'au niveau de la demi-pension, vous puissiez manger en étant en quinconce, avec un espace suffisant pour éviter au maximum les contaminations. D'ailleurs, ça fonctionne, parce que si on regarde les chiffres, depuis le début de l'année scolaire, 58 personnes, élèves ou personnels, ont été déclarés positifs. Alors c'est du déclaratif, parce qu'il y en a, ça s'est passé pendant les vacances, ils ne nous ont pas avertis, mais de manière générale, on n'a pas une contamination massive. Alors, on s'est posé la question, il y avait plusieurs possibilités au niveau de l'alternance. On pouvait se dire, des élèves vont venir le matin, d'autres vont venir l'après-midi. Et donc, on n'avait plus de problème de cantine. Sauf que, dans l'établissement, on recrute nos élèves sur 74 communes. Il y a des élèves qui ont un bus le matin, un bus le soir. Donc, s'ils venaient que le matin, ils ne savaient plus quoi faire l'après-midi. S'ils venaient que l'après-midi, ils ne savaient pas trop quoi faire le matin. Donc, on s'est dit, c'est pas possible. Deuxième chose, quand on regarde un petit peu la structure des emplois du temps, il y a déjà beaucoup de cours dédoublés. Les cours de sciences physiques, les cours de SVT. Et si l'élève, il est là un jour sur deux, le risque, c'est qu'il ait une partie des cours et pas le reste. Donc on est parti sur cette alternance une semaine, mais si vous avez bien remarqué, on n'est pas sur une semaine A, puis une semaine B, puis une semaine A, puis une semaine B. Parce que comme il y a des cours en quinzaine, je pense à l'EMC, je pense à plein de choses, si on avait fait ça, il y a des élèves qui auraient eu cours tout le temps, et d'autres pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette alternance, semaine A, B, puis B, puis A, puis A, puis B, etc. etc. C'était pour que, malgré le distanciel, les élèves puissent avoir accès à l'ensemble de leurs cours une semaine sur deux. Sinon, ce n'était pas possible.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura un retour en classe entière après le confinement ou avant la fin de l'année ?
Si on s'en réfère aux annonces du président de la République, il y aura un retour en classe à partir du 3 mai, selon les besoins, avec des jauges adaptées. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne peux pas me prononcer ni avoir une opinion, je dirais, éclairée ou autorisée sur le fait que vous allez revenir. Je sais simplement qu'on va essayer au maximum, sur certaines classes, de les faire revenir en présentiel au mois de juin, quand j'aurai moins de pression sur la demi-pension, parce que d'autres élèves seront partis. Mais je ne peux pas vous dire, honnêtement, si les élèves reviendront tous à partir du 3 mai, comme le président de la République l'a éventuellement annoncé hier soir.
Comment gérez-vous l'arrivée de ce nouveau confinement ?
Comme on a géré celui du mois de mars, comme celui du mois d'octobre, c'est-à-dire que on s'adapte, hein, on essaye de faire au mieux, on regarde un petit peu les échéances. Alors là, c'est sûr qu'on n'est plus du tout sur la même période qu'au mois de mars. Hein. Là, on va rentrer dans la période des examens. Donc, on a, en équipe de direction, examiné tous les problèmes qui vont se poser à nous, que ce soit des problèmes de cours, des problèmes d'ouverture de l'établissement, des problèmes de CDI, des problèmes de PS... les problèmes de la demi-pension, etc. Donc on essaye de faire en sorte que, au final, les élèves soient le moins pénalisés possible et qu'ils aient le plus de cours possible, notamment les classes à examen.
Est-ce que vous craignez qu'il y ait de nouveau du décrochage scolaire chez certains élèves ?
On vient de finir les conseils de classe du deuxième trimestre. Moi, je suis relativement satisfait de constater que... Effectivement, on constate une baisse, un petit peu, pas très forte, mais une baisse légère, mais quand même, au niveau des résultats du deuxième trimestre de manière globale. On a très peu de décrochage scolaire. Et les élèves qui décrochent aujourd'hui sont des élèves qui décrochaient déjà. Et c'est pas lié au confinement. C'est des situations familiales complexes, c'est des situations de maladie, c'est des phobies scolaires, c'est des troubles divers et variés. C'est pas, à mon avis, en lien avec le confinement. On a quelques élèves qui se sentent pas bien, c'est un fait, puis ils sont pas comme vous, hein, parce que c'est pas normal d'avoir le masque sur le nez, parce que c'est pas normal d'être là une semaine sur deux. Donc on a des élèves qui sont en mal-être, hein, pour certains d'entre eux, mais je n'ai pas constaté réellement une augmentation du décrochage scolaire.
Pensez-vous que cette situation va durer longtemps ?
Je suis encore en train de chercher ma boule de cristal, d'accord ? Et bah, je pense que le coup de frein qui va être donné avec cette période de 4 semaines de fermeture, si j'en crois les spécialistes qu'on entend à la radio, à la télévision, devrait permettre effectivement de surmonter un pic d'épidémie qui arrivera d'ici 15 jours, un pic d'hospitalisation qui arrivera un mois après. Si on ajoute à ça la vaccination qui devrait concerner la quasi-totalité des plus de 18 ans mi-juin, comme l'a précisé le président de la République, je pense qu'effectivement, on devrait pouvoir avoir une rentrée 2021 un peu plus sereine. Je ne pense pas qu'on retrouve des conditions d'enseignement normales très vite. Peut-être qu'effectivement, au 3 mai, on pourra avoir tout le monde. Mais il y aura encore les gestes barrières, c'est une nécessité. Il y aura encore le masque, il y aura encore une situation normale tout de suite. Non, je ne pense pas. Mais je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas un avis autorisé sur la question.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux élèves qui sont en décrochage scolaire ou qui manquent d'organisation pour continuer à travailler ?
Je crois que c'est deux choses différentes. Décrochage scolaire, il ne faut pas rester seul. C'est-à-dire que quand on sent qu'on lâche la rampe, hein, quand on sent qu'on est en difficulté, il ne faut pas s'enfermer. Dans l'établissement, il y a les enseignants, il y a les professeurs principaux, il y a les conseillers d'éducation, il y a les PIEN, il y a les infirmières, il y a les assistants d'éducation. Il ne faut surtout pas rester seul. Je veux dire que quand on ne se sent pas bien, il faut le dire. Pendant les semaines qui vont venir, la semaine prochaine et la semaine de rentrée, moi je vais demander à mes assistants d'éducation et mes conseillers principaux d'éducation d'appeler systématiquement toutes les familles, tous les élèves, pour savoir comment ça va. Donc le premier conseil que je donnerai aux élèves qui se sentent pas bien, qui sentent qu'ils décrochent, c'est de ne pas avoir honte de le dire. On peut avoir un gros coup de mou, c'est pas pour autant que c'est honteux. Et quand on a besoin d'aide, faut surtout pas hésiter à le demander. D'accord ? Après, les élèves qui manquent d'organisation, je pense que ça c'est autre chose. Là, il y a les profs, à qui on peut demander utilement des conseils sur comment réviser, comment travailler, comment faire une dissertation. Il y a des ressources. Je pense par exemple pour les élèves de terminale à tout ce qui a été fait par Le Monde en collaboration avec un site qui s'appelle Assistance scolaire personnalisée. C'est moins grave, je pense, de manquer d'organisation que de se sentir perdu. Mais surtout, il ne faut pas rester seul. Quand on est à la maison, qu'on n'est pas bien, il y a les profs, il y a l'ENT, il y a Pronote, nous on sera ouverts hein, pendant cette période où vous serez à la maison. L'établissement va rester ouvert. Donc moi, je suis à disposition des élèves qui souhaiteraient me voir, les CPE aussi, mes adjoints, etc. Surtout, ne pas rester seul et ne pas avoir peur de dire « je suis pas bien, j'y arrive pas ». Je crois que c'est ça le pire. C'est de s'enfermer en se disant « mais c'est ridicule, je suis pas bon, j'y arrive pas, c'est de ma faute ». Non, non, non. On a des gens qui peuvent aider. C'est surtout ça, à mon avis, le conseil le plus important.
Parce qu'il y a aussi certains élèves qui, par exemple, commencent à travailler au début de semaine et après, il y a des profs qui envoient des choses le vendredi en fin de semaine et qui, finalement, n'arrivent pas à s'organiser, qui doivent tout faire en fin de semaine. Est-ce que vous pensez que les profs pourraient essayer de faire quelque chose, même si, pour eux, c'est une situation difficile ?
La difficulté, effectivement, c'est d'arriver à se rendre compte de la charge de travail que ça représente. Alors je dirais que ce que vous décrivez, pendant le premier confinement, les enseignants ne s'étaient peut-être pas rendus compte au départ que les charges de travail s'accumulent. Bon, là on a appris. Et les professeurs principaux savent maintenant réguler. D'accord ? Les collègues savent réguler aussi, ils sont en communication permanente avec leurs autres collègues, donc quand ils donnent du travail. Maintenant, je crois qu'il y a aussi de temps en temps certains élèves qui jouent aussi de ce genre de choses et qui attendent le dernier moment pour faire le travail qui est donné. Moi, si je regarde Pronote et le cahier de texte, je suis en capacité de me dire, voilà, le lundi, il faut que je fasse ça, le mardi, il faut que je fasse ça, etc. Donc, il peut y avoir à la marge, effectivement, à certains moments, une surcharge de travail, mais je pense que maintenant, tout le monde est rodé. Si l'élève, il n'arrive pas à s'organiser par rapport à ça, c'est que soit il ne sait pas, et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne doit pas rester tout seul, il doit alerter son prof principal en disant « j'y arrive pas », mais il faut aussi qu'il fasse un effort, parce qu'effectivement, on a certains de vos camarades qui se disent « oh, on est dimanche 17h, demain matin j'ai cours, qu'est-ce qui se passe ?» Donc je crois que c'est une adaptation à faire des deux côtés.
Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour les élèves qui ont des difficultés, comme une sorte de handicap en cette période avant le confinement?
Je dirais qu'aujourd'hui, l'école doit être inclusive. C'est-à-dire qu'elle doit faire en sorte que ce qu'on appelle les élèves à besoins particuliers, besoins éducatifs particuliers, soient intégrés au maximum. Alors, besoins éducatifs particuliers, ça peut être plein de choses. Ça peut être notamment des troubles d'apprentissage qui sont liés à ce qu'on appelle les 10. La dyspraxie, la dyscalculie, la dys, etc. Dans l'établissement, on a deux professeurs qui ont été missionnés, donc c'est Mme Pruvot en histoire-géo, Mme Glorian en SPC, pour, d'une part, faire toute cette partie administrative qui est compliquée, le montage des dossiers MDPH, les GEVASCO, tout ce qui est le jargon administratif, et ensuite aider aussi les collègues qui sont un petit peu démunis, parce que, vous donne un exemple, quelqu'un qui aurait une dyslexie, il y a des polices d'orthographe qui sont plus fatigantes que d'autres. Comment vous pouvez le savoir? Comment je peux le savoir? Donc ces deux personnels, Mme Pruvot et Mme Glorian, sont là pour aider les collègues à se dire, voilà, quand je fais un énoncé, je vais utiliser telle police avec tel espace, telle taille, etc. Donc on a effectivement des moyens dédiés pour aider les élèves à besoins particuliers. Après, j'ai les psychologues des questions nationales, qui eux sont plus sur une partie aide à l'orientation, définition du projet, les deux infirmières de l'établissement sur une partie écoute, et puis les professeurs principaux sur la partie scolaire. Donc il y a effectivement des moyens particuliers qui sont dégagés pour les élèves qui auraient des difficultés particulières.
J'ai entendu dire qu'il y avait des élèves qui restaient en cours toutes les semaines, plutôt qu'être une semaine sur deux. Et c'est quel type d'élèves qui peuvent faire cela en fait?
Alors, on a effectivement on a été sollicité par des familles qui souhaitaient que leurs enfants soient en présentiel tout le temps. On n'a pas dit oui tout le temps. Parce que le protocole sanitaire est là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte un espacement entre les élèves, etc. On a dit oui, notamment pour les élèves dont vous parliez juste avant. C'est-à-dire que des élèves qui sont avec des besoins éducatifs particuliers, qui auraient par exemple des aménagements au niveau des examens, qui utiliseraient un ordinateur, qui ont besoin d'un secrétaire, ceux-là, quand ils sont présentiels, distanciels, sont plus en difficulté que d'autres. On peut avoir des situations sociales particulière. Des enfants qui, dans le cas d'une galde alternée par exemple, quand il y a un divorce qui se passe mal, ont besoin d'être là tout le temps parce que quand ils sont chez l'un ou chez l'autre, ça va pas. Donc au cas par cas, on a accepté effectivement certains élèves en présentiel tout le temps, en se disant quand même qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde parce qu'il faut qu'on raisonne en termes de jauge d'occupation aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas dit, il y en a certains à qui on a dit non parce que on est trop nombreux après pour les accueillir.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, pourquoi est-ce que les 3C ont été annulés? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu aider les élèves pour les épreuves de l'année prochaine?
Des EC?
Oui.
Tout court. Non, mais il faut être précis. Il est difficile d'organiser des épreuves communes, je dirais, dans de bonnes conditions, lorsqu'on n'a pas tous les élèves tout le temps. C'est-à-dire que les enseignants ont besoin de vous avoir sous la main tout le temps, et vous avez besoin d'avoir vos profs sous la main tout le temps. Je pense que c'était une bonne chose de les annuler, voire de les reporter. Alors après, c'est le ministre qui décide, c'est une évidence, pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre ceux qui sont là tout le temps, ceux qui sont là une semaine sur deux. Maintenant, je pense que le fait qu'elles aient été annulées n'obère pas les chances pour les élèves d'aller au bac. L'an dernier, elles ont été annulées, on est passé en contrôle continu, etc. Donc c'est pas l'an prochain, ça reviendra à la normale. Il est clair que nous, on avait prévu des épreuves anticipées blanches, du coup, pour voir un petit peu, pour que l'élève... En fait, si vous voulez, l'intérêt de les faire cette année dans une situation particulière, ça aurait été que l'élève puisse se situer par rapport à ses connaissances et ses méthodes de travail. Bon, on les avait prévues, elles sont tombées à un moment où maintenant on sera en vacances, on les a annulées parce que derrière, il restera plus de 4 semaines de cours et ça n'aurait pas nécessairement de sens de les faire mi-mai, par exemple. Ça, c'est évident.
Est-ce qu'il y a des moyens financiers qui ont été mis en place pour les élèves qui n'avaient pas d'ordinateur ou...
Alors, on avait la chance dans l'établissement d'avoir du stock en termes d'ordinateur, que ce soit unité centrale, clavier, PC, écran, etc. Donc depuis le début du confinement, donc depuis le début de l'année dernière, hein, on a prêté à peu près 30 ordis à des élèves qui n'avaient pas de matériel chez eux. La problématique, c'est la connexion. C'est-à-dire que moi, je peux prêter un PC, il n'y a pas de souci, ou donner, parce que bon, on sait très bien qu'ils en auront besoin, s'ils en ont besoin cette année, ils en auront besoin l'année prochaine, etc., etc. Donc on ne va pas aller récupérer un matériel qu'on a prêté. En revanche, là où on ne peut pas faire grand-chose, c'est sur les connexions Internet. Mais le matériel a été mis à disposition, je vous dis, pour une trentaine d'élèves qui nous ont sollicité par rapport à ça. On n'a pas d'élèves qui nous aient demandé du matériel à qui on n'ait pas pu le fournir.
C'était l'interview du proviseur de Gambetta, Frédéric Vibian, qui nous a expliqué la situation du lycée en cette période difficile.
On se quitte avec la musique Another Brick in the Wall de Pink Floyd.
Et voilà, non, c'est tout.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Salut. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just